Question d'islam par Al Bensheikh. Aujourd'hui, nous parlons des maqamat. Alors, qu'est-ce que c'est que les maqamat? Pluriel de maqama. On traduit cela par séance. Certains disent assemblée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne définition. Ce qui est consacré, c'est plutôt séance. Et pour évoquer ce sujet, j'ai plaisir à recevoir le professeur André Miquel. André Miquel, bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureux de vous recevoir. C'est vraiment une grande joie pour nous tous, pour les auditeurs de France Culture, pour moi-même. Vous étiez administrateur du Collège de France. Vous étiez
oui.
président de la Bibliothèque nationale de France.
Administrateur dans un cas pour le Collège et administrateur général de la Bibliothèque nationale pour l'autre.
Oui, alors vous dites administrateur général, j'ai lu quelque part président, mais c'est le titre exact,
oui.
administrateur général. Bien entendu, vous êtes agrégé de grammaire, docteur ès lettres, un fin arabisant, et j'ajouterai pour ma part que vous êtes le plus grand arabisant français encore en vie, longue vie à vous, et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes un fin connaisseur aussi de la chose islamique qui dépasse le monde arabe, la civilisation des Perses, la civilisation des Turcs ou des Turco-Mongols ne vous sont pas étrangères aussi. Si nous parlons aujourd'hui des maqamat, qu'on traduit par séance, séance au pluriel, les séances, c'est un genre littéraire. D'aucuns disent que c'est peut-être le noyau du théâtre ou la proto-histoire du théâtre dans l'Empire ou dans cette région du monde qu'est l'Empire islamique. D'abord, seriez-vous d'accord ou pas sur cette présentation? Je ne vois pas où est le lien personnellement, mais certains le disent. Et si vous pouviez nous définir, qu'est-ce que c'est qu'une maqama, qu'est-ce que c'est qu'une séance?
Oh, je traduirais volontiers par réunion, finalement. Réunion autour d'un personnage qui est un conteur et qui raconte, en effet, ce qui lui est arrivé sur des thèmes très variés. Mettons des thèmes pris au hasard de la rue, d'un côté, à la limite de l'osé, mais pas en tombant carrément dans le vulgaire, jusqu'au plus noble, la consultation d'un juriste, d'un docteur de la loi, etc. C'est vrai que c'est peut-être, en effet, quelque chose qui pourrait s'apparenter au théâtre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les maqamat de Hamadani et de Hariri, en gros, autour de l'an 1000 et de l'an 1100, ne chipotons pas sur les dates. Je n'aime pas les dates, moi, de toute façon. Je ne suis pas érudit des dates. Mais enfin, 1100, qu'elles ont, par-delà des siècles en avant, tracé une voie que beaucoup plus tard, au 19e siècle, allaient exploiter d'autres écrivains, notamment Mouaïlihi, qui a raconté, et d'autres, qui ont raconté leurs aventures, leurs rencontres, soit dans leur pays, l'Égypte en priorité, soit en Occident, à Paris, lors de leur voyage d'études ou autres. Donc il y a là une tradition et en même temps quelque chose qui poursuit une tradition déjà commencée avant eux, mais qui est considérable, à savoir la langue arabe comme un des langages universels.
Oui,
et ça, c'est une autre histoire qu'il nous faudrait remonter quelques siècles en arrière.
Entendu, nous verrons cela avec vous tout au long de l'émission. Vous avez évoqué Hamadani et Hariri, deux grands noms de ce genre littéraire. Le premier est le fondateur ou le maître ou en tout cas on fait remonter à lui le genre, et Hariri, qui le reprendra plus tard, c'est à vous de me dire, il excellera, il pourrait dépasser le maître aussi dans cet art. Hamadani est de souche arabe, mais il est né à Hamadan et il a épousé la culture persane. C'est pour dire que...
Il n'est pas le premier.
Et que dans cette émission, et à l'émission Question d'Islam, nous ne sommes pas uniquement arabo-centrés aussi, même si la langue arabe est une langue universelle. Qui est Hamadani? Vous n'aimez pas les dates, moi je les ai un peu en tête. Il est né en 968-69, mort vers 1008-1009, à l'âge de 40 ans, c'est ça, comme ça, de part et d'autre de l'an 1000.
Oui.
Comment est-il venu l'idée de ce conte, de cette réunion, de cette séance et de ce genre littéraire?
J'avoue que là, vous me collez un peu. Je ne sais pas.
Je vous en prie.
Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je parlais de tradition dès quelques siècles avant lui. Il faut s'imaginer. Pardonnez-moi, je m'écarte du sujet, mais on va y revenir.
Je vous en prie.
Au départ, l'arabe, c'est la langue du Coran, évidemment, et c'est la langue de tribus bédouines. Et puis, quelques siècles après, elle devient langue universelle. Et elle devient langue universelle, d'abord, à l'intérieur du monde arabe, avec le califat Oumayyad de Damas, qui se termine en 750, qui généralise l'emploi de l'arabe dans l'administration, etc. Et puis, avec le califat Abbaside de Bagdad, qui naît au milieu du 8e siècle, elle devient là vraiment langue universelle. Pourquoi? Parce qu'elle est confrontée à un tas de trésors qui lui arrivent sur la tête, qui lui arrivent de l'Inde, de Perse et de la Grèce antique. Et si vraiment l'arabe veut s'intégrer dans son siècle, eh ben, il faut qu'il trouve un moyen de communiquer. Et c'est là, à partir des bureaux de l'administration califienne à Bagdad, que tout va se jouer. Il va y avoir des gens remarquables, notamment Ibn al-Mukhaffa, l'auteur des fables de Kalila et d'Imna, qui vont faire de cette langue un langage universel. Je dis Ibn al-Mukhaffa, il ne faut pas oublier Jahid, qui est un des grands de la littérature arabe, avec lesquels l'arabe va s'ouvrir à l'universel.
D'aucuns avaient comparé al-Jahid à la Bruyère, ou l'inverse,
oui,
dans le temps.
Mais avec quelque chose d'important qu'on peut dire, je crois, c'est que pourquoi écrit-on en prose à cette époque? Pour faire de la littérature. La littérature, qu'est-ce que c'est? C'est une forme propre de l'écriture et l'injection d'une personnalité. Je viens de définir la poésie. Et la poésie, elle a toute sa place, parce que personne ne l'a occupée, à part elle. Le Coran est quelque chose d'autre, tout à fait à part. Mais quand je veux écrire de la prose, à l'époque arabe classique, si je veux faire usage d'une personnalité, je ne peux pas. La prose, c'est un moyen de transmission. Je dis « je » quand j'écris en prose, non pas pour dire « moi, un tel, vous allez voir ce que vous allez voir », mais « je » comme témoin. Voici ce que je sais, je vais vous en faire part. Donc, je reviens aux séances, nous sommes là à un tournant d'écrivains qui veulent faire œuvre littéraire en prose. Et alors, au départ, avec Hamadani, la morale est sauve, si j'ose dire. Il prend la plume, et d'une façon très personnelle, mais pour être témoin de ce qu'il a vu, en général, ça se termine selon les lois de la morale. Avec Hariri, un siècle après, donc il meurt, lui, autour de 1100, c'est déjà autre chose. Il y a déjà un exercice sur le style qui peut parfois faire froncer les sourcils à tel docteur de la loi parce qu'il s'aventure là sur une terre, la prose comme œuvre littéraire, qui est un terrain miné et dangereux. Alors cela, ça sommeillera quelque temps avant de reparaître au XIXe siècle avec les récits de voyages de Moïse Léhi et d'autres.
Mais cher André Miquel, vous avez vraiment répondu à supposer qu'il me soit permis de cautionner votre réponse, mais c'est celle-là, parce qu'on dit que ce genre littéraire est né, n'étant pas de la poésie et n'étant pas non plus de la prose qui rappelle certaines catégories déjà prises, si on il y a une dissertation, si je puis dire, d'ordre théologique ou une hagiographie ou une biographie d'un grand nom ou quelque chose comme ça, il reste ce domaine de conter, de raconter la vie, parfois de quelques fripons, de quelques petits brigands, et puis ça peut aller jusqu'à la noblesse, comme vous ne l'avez vraiment dicté. Mais il y a aussi, ça obéit à un paradigme qui est le narrateur raconte le héros. Et dans le cas de Hamadani, le narrateur a un nom, c'est... Issa ibn Hisham, Issa fils de Hisham, et le héros, c'est Abul Fath al-Askandari. Et on suivra ce modèle, y compris Hariri plus tard suivra encore ce modèle, mais en ayant changé bien sûr et le narrateur et le héros.
Mais on voit déjà où le modèle risque de tomber à l'eau. C'est-à-dire qu'entre Hamadani et Hariri, on voit se dessiner, comment dire, l'apparence d'une prose travaillée et même, je dirais, trop travaillée. Hariri, dans le cadre que j'ai essayé d'évoquer, il est vraiment à la limite. Il est à la limite. Et finalement, la meilleure réponse à faire lorsqu'on veut être écrivain et en prose, c'est celle-là, c'est celle du conte, enfin, du contenu d'une histoire qu'on livre telle quelle sans chercher à faire du jeu. Moi, vous allez voir comment je vais vous raconter ça, etc. Et finalement, là, l'avenir de la littérature arabe, après 1100, il est où ? Il a déjà été tracé quelques siècles avant. Il est dans les Mille et Une Nuits. Parce que les Mille et Une Nuits, elles, continueront à s'enregistrer, si j'ai bonne mémoire, jusqu'au début du XVIe siècle. Et selon, finalement, quelque chose qui met à part, qui met à l'abri le conteur, à savoir qu'il raconte toujours une histoire morale. Ça va sans doute vous étonner, mais dans les catalogues de libraires, comme celui d'Ibn al-Nadim, à l'époque abbasside, on trouve les Mille et Une Nuits classés, tenez-vous bien, dans les œuvres morales. Alors, je veux bien, mais enfin, il y a quelques contes quand même, y compris dans le vocabulaire, qui ne répondent pas forcément à ce que nous appellerions aujourd'hui la morale bourgeoise, disons. Et pourtant, tous ces contes des Mille et Une Nuits ont une caractéristique commune. C'est que d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers l'évocation de groupes sociaux, la vie de personnages illustres, les contes fantastiques, les histoires d'un tel ou d'un tel, Sinbad le Marin et autres, tous ces contes ont derrière eux un propos qui est « le bien triomphe toujours ».
Toujours.
Le mal peut se donner de temps en temps, ici ou là, de petites victoires, mais à la fin, le bien doit triompher, et il triomphe toujours.
Et nous trouvons cela
bien sûr,
aussi
dans
les Makramat. Et celle de Hamadani, puisqu'on nous commençons avec lui. Alors, on dit qu'il a dû composer autour de 400 séances, et il nous est resté qu'une cinquantaine, c'est 52 même, et chacune concerne une grande métropole. Enfin, en réalité, il s'agit plutôt des villes, des grandes métropoles de l'Empire, que ce soit dans la région de la Perse ou un peu plus au sud ou dans l'Irak actuel. Et ce sont des historiettes, des petites histoires où s'est mis en scène ce héros. Parfois, il agit d'une manière un peu insidieuse, parfois d'une manière un peu plus noble. Et il y a eu un grand intérêt et un grand succès de ces maqamates.
Elle répondait à quelque chose que tout le monde attendait. Entendre quelque chose, passez-moi, je suis peut-être dur avec les poètes, quelque chose qui enfin ne soit pas de la poésie. Parce qu'en effet, dès que quelqu'un commençait un vers, alors, tout le monde était aux anges, mais peut-être que quand la poésie elle-même devient exercice, elle peut lasser comme tout le reste. Tandis que là, mon Dieu, la prose, on n'a pas à s'interroger pour savoir quel est le sens derrière, on suit l'histoire. Tandis que quand un poète, je pense à Mutanabbi, pour se vanter à travers un personnage à qui il prête ses mots, mais un prince, mais c'est lui qui parle. Quand un Mutanabbi poète écrit qu'il est tellement grand que lorsqu'il écrit, l'encre de ses vers devient blanche, ça demande quand même un certain moment de réflexion pour s'apercevoir que derrière, ça veut dire la poésie est immortelle. La prose le dirait plus facilement. Voilà. Alors, il y a peut-être derrière aussi un souci ou un besoin, tout simplement, de facilité, comme un chemin que la prose se creuse à côté de la poésie.
C'est toujours ce même Mutanabbi, même si nous sortons un peu du sujet, qui dit « C'est moi que l'aveugle voit ma littérature et mes propos font entendre le sourd ».
Oui.
Donc il est d'une grande mégalomanie.
Mais bien sûr.
Et on peut en citer beaucoup des vers déclamés par Al-Mutanabbi qui dénotent cette attitude.
Alors, je dirais qu'il y a un terrain sur ce terrain-là, bien sûr, où la poésie peut combattre la prose, c'est lorsque elle-même devient, entre guillemets, morale. Et alors là, je pense à un autre. Je pense à Boulrataïa, qui parle, lui, un langage, je dirais, courant. Mais lorsque Boulrataïa dit « Et la mort et ce feu en nous tous allumés, que chaque jour nouveau, un peu plus fort, ravive », alors là, on est au sommet, du moins pour moi, à savoir un langage clair, immédiatement perceptible, qui rejoint d'autres grandes paroles de l'humanité. L'homme est le seul être vivant qui sait qu'il doit mourir. Donc là, véritablement, il n'y a plus de problème, c'est la poésie qui l'emporte. Mais il reste que la prose, quand même, pas mal de champs à défricher. Thank you.
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de littérature, de prose, de poésie, de prose assonancée et rimée dans le genre littéraire que sont les maqamats, les séances, avec le professeur André Miquel. Alors, vous m'aviez corrigé tout à l'heure, vous étiez administrateur du Collège de France et administrateur général de la Bibliothèque nationale de France.
Et c'est par respect pour l'institution, pas pour moi.
J'entends. Et puis, il faut être extrêmement rigoureux et je vous en sais gré. Nous parlons donc des maqamats, des séances. J'ai cru comprendre, mais je soumets à votre approbation, qu'on a un quadriptyque les concernant. D'abord, c'est un moyen d'exercice d'une prose, d'une bonne rédaction en prose rimée et assonancée. Elle est aussi un capital ou un trésor lexicographique, philologique. Et le troisième point, c'est qu'il y a dedans des maximes, des apophthegmes, des aphorismes, etc. Et le quatrième point, ça peut être considéré comme un document historique relatant la vie dans ces grandes métropoles de l'Empire.
Oui, alors là, vous abordez un sujet important. Cette littérature arabe classique, c'est une littérature de la ville. Cette ville autour de laquelle tourne non seulement la littérature, mais toute l'histoire. Parce qu'à certains moments cruciaux de l'histoire du peuple arabe, elle sera là pour le meilleur ou quelquefois pour le pire. Parce que elle appauvrit les campagnes à force de leur demander de plus en plus pour des villes de plus en plus grandes, dont certaines déjà peut-être atteignent le million d'habitants. Vous vous rendez compte, pour l'époque, pour le Moyen-Âge. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, la culture, c'est la ville. Le paysan, personne n'en parle. Il faut aller chercher dans les récits de voyage, entre guillemets, je veux dire les récits des géographes de ce temps, mes chers géographes qui m'ont occupé de ci, de là pendant quand même une vingtaine d'années, pour trouver quelque chose qui reflète la campagne. Moins la vie quotidienne, d'ailleurs, devinez quoi ? Moins la vie quotidienne que ses productions. Pourquoi ? Parce que les productions, c'est ce qui s'achète et où ? Devinez où ? En ville, oui. Bien sûr.
Alors, que diriez-vous à ceux qui objectent que pour parfaire leur langue, et l'éloquence, la rhétorique, rendre leur vocabulaire bien explicite et affiné, certains poètes ou certains prosateurs vont voir les Bédouins, vont à la campagne, pour la pureté de la langue.
Oui, mais ça c'est, comment dire, la traduction la plus noble qui veut que le vrai arabe, c'est celui du désert. Bon, celui où a puisé, bon, les spécialistes de la langue vous le diront mieux que moi, celui où a été puisé l'arabe même du Coran. Alors, vrai ou pas, en tout cas ce qui est vrai, c'est la légende, enfin, ce qui est vrai, c'est ce que les gens croient. Et ça, nous savons depuis Brodel que ce que les gens croient, c'est aussi une réalité historique dont il faut tenir compte. Bien. Bon, quant à la langue elle-même, il y a tout de même quelque chose de considérable qui s'est passé avec le califat abbaside, c'est que l'arabe, je le disais, est une langue universelle, mais universelle qui a dû emprunter des mots à l'étranger, carrément par le décalque, ou donner un sens à de mots anciens. Alors, l'exemple le plus célèbre qu'on cite toujours, c'est l'algèbre qui vient, bon, vous le savez mieux que moi, jabr, etc. Bon, mais il est vrai que ce mythe, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, ce mythe de l'arabe bédouin, il a eu la peau dure longtemps. Peut-être encore tient-il toujours, je ne sais pas, mais...
Oui, en tout cas, on le dit, pour parfaire sa langue, on va séjourner un moment dans le désert et revenir. Mais il est vrai que pour les séances qui nous intéressent aujourd'hui, sont essentiellement, exclusivement, des historiettes ou des histoires relatives à la vie citadine. Si je reste encore un moment avec Al-Hamadani, donc de Hamadan, on est sous la dynastie Bouyide, bien que la dynastie abbasside ou l'empire soit abbasside, c'est la dynastie Bouyide qui gouverne, qui a le pouvoir politique. Badi Azzaman, alors c'est le prodige du siècle ou la merveille de 100 ans, c'est comme ça qu'on le surnomme, Hamadani, va nous parler de ses séances. Donc je renvoie nos auditeurs à l'ouvrage que vous avez annoté et que vous avez présenté aux éditions Orient. Passons maintenant de Badi Azzaman al-Hamadani, donc le prodige de son siècle ou la merveille de 100 ans, qu'est Hamadani, à Al-Hariri. Alors lui ne composera, si je puis dire, que 50 maqamas, donc 50 séances. C'est un choix délibéré parce qu'il fait autre chose aussi. Copions son maître par-delà le temps.
Un choix délibéré, j'aurais tendance à dire oui. Pourquoi ? Parce que sa prose, il la travaille beaucoup plus que Hamadani. Hamadani est d'abord conteur. Hariri se veut écrivain. Et quand on veut faire œuvre littéraire, on est bien forcé de regarder ce que l'on écrit, de raturer, de reprendre, etc. Et je pense que si véritablement, en tout cas ce serait ma réponse, si Hariri a écrit moins que Hamadani, c'est peut-être parce qu'il se voulait plus écrivain que conteur.
Oui, puis s'amuser, si je puis dire. Il a fait une séance uniquement avec des mots, avec la lettre S ou le son S. Mmh. Il en fait une où il n'y a pas de point diacritique dans les mots. Ça rappelle plus tard ceux qui écrivent sans le E ou des choses de cet ordre. C'est lui qui a un peu excellé et initié ce genre.
Oui, bien sûr, mais les jeux de l'écriture, bien. Mais il faut se rendre compte que à cette époque, ça n'était pas gagné d'avance, et que ça pouvait être dangereux même, parce que imaginez que, je ne sais pas, un docteur de la loi qui traîne par là dise, mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire de la prose, de la belle prose, de la prose que personne n'a jamais entendue, mais attention, c'est déjà arrivé avec le Coran. Et tu sais comme moi que ce langage-là, il est réservé pour toujours, compte tenu de son origine d'une part, et de celui qui l'a transmis, je veux dire le prophète.
Oui. Alors il choisit, bon c'est un choix, le narrateur, il le fait appeler Harith ibn Hammam. D'aucuns disent qu'il s'est inspiré d'un aphorisme du prophète, je le dis parce que nous sommes dans une émission « Question d'islam », où on attribue au prophète d'avoir dit « Vous êtes tous un harith et vous êtes tous un hammam ». Je traduis les deux mots, on pourrait dire, et je le dis sous votre contrôle, un harith est un laboureur, un semeur et qui récolte. Et Hammam, c'est celui qui digne des grandes missions, des grandes affaires. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est fait... son narrateur l'a appelé ainsi. Et son conteur, c'est un certain Abou Zayd Sarouji. D'ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi il l'a appelé ainsi, si ce n'est que peut-être le gentilé de la ville de Sarouj. Et ce conteur peut apparaître par moments aussi comme... faisant preuve de cuistrerie, un moment il fait le pédant alors qu'il n'en a peut-être pas les moyens intellectuels, et puis par moments il agit bien chez les bourgeois. Diriez-vous, cher André Miquel, que cela, les séances de Hariri rappellent plus tard, inspireront, ou le roman picaresque espagnol donne une idée de des séances?
Alors, très franchement, je ne sais pas si je peux vous répondre. Ce que je sais, c'est que les comparatismes, je m'en méfie toujours. Je prends un exemple. Pour un être qui m'est très cher, Majnoun, le fou de Leïla, le poète. Bon. Dans l'Arabie, vraiment à l'époque du prophète, presque, juste avant, est arrivé un homme ou une tribu ou plusieurs représentés par un, on ne saura jamais, et de toute façon, de vous à moi, je m'en moque éperdument, il reste le personnage, l'homme Majnoun, qui a lancé dans le monde un thème, mais promis à une éternelle fortune, à savoir que l'amour impossible est le seul amour qui soit parfait, et le seul amour parfait, eh bien, il est impossible. Alors, on a échafaudé là-dessus, on a essayé de dire que finalement, il y avait eu des passages pour arriver à Tristan et Iseult. Bon. Moi, je me contente de savoir que Majnoun a été, de savoir après d'autres, que Majnoun a été une source d'inspiration petit à petit pour les mystiques, et notamment du côté de la Perse, puisque quel plus bel amour que d'aimer celui qu'on ne voit pas, Dieu. Bon. Qu'il a été aussi l'inspirateur de certains romans à l'ennemi du social comme Werther, et pourquoi pas Aragon, etc. Moi, je constate que il y a, quand on lit Majnoun, tout cela, mais que ça ne prouve pas qu'historiquement, Majnoun est eu des disciples de siècle en siècle. Voilà.
Oui, Majnoun étant le fou d'Elsa, on le voit, vous l'avez cité avec Aragon.
Oui.
Alors, il n'y a peut-être pas des filiations directes, on pourrait dire parfois des pastiches, parfois des inspirations, fulgurances, entendu. Pour rester dans ce registre, alors pas celui de la comparaison, et vous avez raison de vous en méfier, et je suis tout comme vous, et donc je retire ma question à propos du roman picaresque. En revanche, ça va essaimer du début du XIIe siècle. Encore une fois, vous n'aimez pas les dates, mais notre ami Hariri, c'est 1054-1055. Il sera mort vers 1122, quelque chose comme ça. Et plus tard, jusqu'au XIXe siècle, nous allons passer par certaines aires culturelles, toujours dans l'Empire. En Andalousie et même dans l'Espagne musulmane, il va y avoir Yehuda Harizi. Alors, il est juif, pétri de littérature arabe, il composera l'équivalent des séances, mais cette fois-ci en hébreu. Il mourra à Alep, bien qu'il fût originaire de Tolède, et ce genre littéraire, on le trouvera en persan, en hébreu, d'aucuns disent aussi en syriaque, et bien entendu, ça reste aussi en arabe, mais on ne connaît pas trop les grands maîtres comme Hamadani ou Hariri des séances, jusqu'à Mouaylihi, mais on est déjà au XIXe siècle.
Que vous répondre ? Je retombe une fois sur le problème des influences, comme on dit. Influence, je veux bien, mais les transmissions, même indirectes, moi vraiment, je n'y crois pas trop. Excusez-moi, mais je dévie un peu, parce que derrière votre question, j'en devine une autre. Redoutable problème, la poésie arabe de l'Espagne, de l'Andalous, a-t-elle eu une influence sur la poésie du Nord, et notamment sur la poésie de mon pays, je veux dire la poésie occitane. Peut-être, peut-être. Mais encore une fois, il y a tellement de nuances qui appartiennent chaque fois et imprescriptiblement à l'une ou à l'autre que chaque fois je me méfie. Moi, je me contente de... Au fond, c'est un travail d'historien. Et je n'ai pas été historien, moi. J'ai voulu être... Critique littéraire, c'est un bien grand mot.
Mais vous êtes intéressé à la géographie, aux géographes, en tout cas.
Oui, mais ça, c'est... Comment dire ? C'est ma réserve, mon magasin, où je vais puiser de temps en temps des forces pour pour continuer. Quand j'en ai assez, par exemple, que j'estime, à tort d'avoir épuisé un sujet, je vais là et puis je cueille, etc. C'est comme ça que j'ai fait mes 4 tomes des géographes arabes, l'un sur la littérature géographique dans la littérature arabe, puis la description de l'univers, puis la description du monde vivant, et enfin l'évocation des sociétés. Mais tout cela, c'est autre chose. Comme je le disais, c'est un vivier. Et tout de même, puisque vous m'amenez, même sans le vouloir, sur ce terrain, sur le terrain des géographes, vous me direz, mais finalement, est-ce que ça a été dans votre itinéraire, j'aime pas beaucoup le nom de carrière, dans votre itinéraire, un point essentiel? Oui, pourquoi? C'est parce que je me suis demandé pourquoi tous ces gens, tous ces géographes, tenaient tant que ça à écrire, et pour qui? Alors écrire, bon, pour les services du califat, d'accord, pour renseigner sur les provinces, les peuples étrangers, etc. Mais pour eux, pour faire de la géographie un genre plein et entier de la littérature de leur temps. Et en ce moment-là, et on revient à notre propos d'avant, qu'est-ce que c'est que la littérature? La littérature courante, je dirais, c'est l'adab. Vous Bien savez sûr. Mieux que moi. Bon, et l'adab, c'est quoi? C'est la littérature, ce que nous appellerons la culture générale. Mais une culture générale qui comporterait 3 volets. Le premier, c'est comment on doit se tenir en société. C'est ce que j'appellerais tout simplement le savoir-faire. Le second, c'est comment être utile dans cette société en communiquant un savoir. Mais un savoir que tout le monde peut aborder.
Savoir-dire.
Oui, voilà. Donc, le savoir-dire, le dire simplement. Le troisième, c'est faire de ce savoir quelque chose de transmissible. Autrement dit, 3 faire, savoir-faire, savoir-dire et savoir-savoir aussi. Et l'adab, c'est ça. Et finalement, toute la littérature, toute la prose arabe de ces grands siècles, elle ressortit profondément au vœu de l'adab.
Oui, et je crois fondamentalement que si les musulmans de par le monde, et notamment français, revenaient aux humanités, à cette éthique qui transparaît dans le adab, dans cette littérature, avec ce triptyque savoir-faire, savoir-dire, savoir-savoir, eh bien, il y aurait un peu plus d'âme élevée et de sens plutôt flatté.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui avec le professeur André Miquel, et nous parlons de séances, les séances au pluriel, les séances de Hamadani, les séances de Hariri, particulièrement, mais tout le genre littéraire de ces séances. Et j'ai une question pour vous, André Muquel. Quelle a été la réception en dehors des contextes islamiques des séances?
Je voudrais répondre sur deux points. Le premier, vous sembliez m'amener vers une réponse sur pourquoi j'écris. Alors je dirais que j'ai écrit, comment dire, vers deux publics. Le premier, c'est celui de mes compatriotes, souvent trop mal éclairés sur le monde musulman, je dirais plus précisément sur le monde arabe. Occasion au passage de préciser, je ne suis pas islamologue. Je ne me suis pas intéressé, comme ça, à la littérature, aux œuvres écrites par des docteurs de la loi ou autre. Je me suis intéressé à la littérature. J'ai donc écrit pour dégager mes concitoyens de certaines images toutes faites, telles que l'école portée, cet orientalisme sur lequel s'était déchaîné Edouard Saïd, au passage sans rendre hommage à ceux qui essayaient de rendre un véritable Orient, bon, perceptible dans la vérité. Et deuxièmement, l'autre public, c'est celui des amis arabes que j'ai aujourd'hui, à savoir qu'ils réfléchissent avec moi comment éclairer les musulmans, et là je ne dis pas seulement les arabes, mais les musulmans, sur leur passé. Surtout ce passé qui a fait que, bon sang, les arabes ont fait partie de l'histoire universelle et qu'ils ont fait par moments la science universelle. Tout ça tantôt oublié. Donc les deux publics, mes compatriotes et vos compatriotes, si j'ose dire, enfin les gens du monde musulman.
Moi, mes compatriotes sont français.
Oui, oui, bien sûr. Bon,
que non. Edouard Saïd a parlé de l'orientalisme savant auquel il a pu rendre hommage et l'orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale qu'il a fustigé.
Mais je trouve que la balance n'est pas toujours égale chez Edouard Saïd. Voilà, c'est tout. Bon, ça dit, j'ai une grande admiration pour cet homme. Alors, je reviens à l'autre question sur les illustrations, Wessity et d'autres. Et là, ça, je ne parle pas, ce n'est pas moi qui parle, c'est un vieil ami, un collègue de prison au Caire, dans une époque de ma vie, je veux dire Alexandre Papadopoulos, qui a, je crois, très bien mis l'accent, malheureusement, on lui rend peu hommage, sur la fonction de l'art dans le monde de l'islam. Représenter le monde, on le sait, c'est faire injure à Dieu. On ne peut pas recréer ce qui a été créé une bonne fois pour toutes. D'où ce qu'on appellerait les échappatoires, la calligraphie, et alors la miniature quoi? C'est Papadopoulos qui parle, ça n'est pas moi. La miniature représente, on voit des êtres, des arbres, de nature, mais on les voit comment? Déformés. À savoir que les perspectives jouent avec les perspectives naturelles, que les corps, si on regarde bien, ne répondent pas toujours aux proportions tête, buste, manche, etc. Pourquoi? Réponse, je ne pouvais pas faire autrement, parce que la perfection, elle n'est pas sous ma main.
Alors, d'aucuns disent que les visages sont toujours présentés aux trois quarts, vus comme ça, parfois avec un air un peu burlesque, loufoque, et même les animaux, dans les miniatures de Wessity, on est encore en 1237, dans l'atelier de Bagdad, et on parle cette fois-ci de miniatures arabes et non pas de miniatures persanes ou miniatures ottomanes, il y a quelque chose qui se dégage, y compris des animaux, des chameaux, qui rappellerait un peu les dessins animés à un moment donné, avec un visage plutôt, pardonnez-moi le terme, un peu rigolo. Et ça, vous pensez que c'est voulu, c'est pour un peu contourner l'aniconisme qui serait prévalent dans l'Empire et dans la tradition islamique?
Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Papadopoulos, mais je fais mienne ces conclusions. Je crois que, bon, comme dans toute vérité, bon, la vérité n'est jamais, du moins pour nous, pauvres humains, n'est jamais absolue, mais en tout cas une bonne part de vérité, je crois vraiment.
Maintenant, André Michel, avec ces séances, ces maqamat, vous pensez que c'est un témoignage aussi de la richesse de la production intellectuelle, avec la poésie, comme son nom l'indique, ou son étymologie, il y a une création, et là, c'est... le fait de le présenter au public français, c'est pour que ce public se rende compte de la vie riche, trépidante, quotidienne dans l'Empire, aux alentours, du 10e jusqu'au siècle qui ont suivi, sur au moins une fresque historique ou une tapisserie des siècles de 4 ou 5, ou au-delà, même jusqu'au 19e. Le but est celui-là.
Oui. Le but est en effet de... En tout cas, nous le recevons comme ça aujourd'hui, c'est essentiel. Le but est de nous donner à lire une société, non pas seulement la société idéale, prônée par le texte sacré et ses interprètes, mais la vérité telle qu'elle apparaît dans la vie, avec tout de même toujours latent ce problème... d'une leçon à en tirer. La leçon, moi, qui tourne autour des mêmes mots, la bonté, la justice, la clarté de vue, tout ce qu'on peut imaginer sous ce terme. Et qu'on retrouvera, j'y reviens, dans les mille et une nuits.
Avec le triomphe toujours du bien.
Eh oui.
Peut-être un mot sur la concomitance, à quelques nuances près, des maqamat, notamment de Hamadani, puis de Hariri plus tard, et le livre des rois de Firdausi. Là, d'un côté, on a cette présentation de la vie quotidienne, avec des moments aussi de burlesque ou loufoque, et de l'autre, une sorte de chronologie et d'histoire de la civilisation des Perses. Nous ne sommes pas dans le même registre.
Pas du tout, mais là, nous sommes dans l'histoire.
Et vous n'êtes pas historien,
oui,
vous nous l'avez
dit. Imaginons quand même. Ces Arabes, ils ont été maîtres d'une bonne partie du monde jusque sous le califat Omeyyade. Et à partir du milieu du 8e siècle, désormais, je ne dis pas que le pouvoir leur échappe, mais ce pouvoir, ils doivent le partager. Et ça, c'est un sacré problème qu'ils n'avaient pas prévu. Ils le partagent d'abord avec les Iraniens, puis avec les Turcs, les Maghrébins, etc. Et on revient par là à l'histoire de la langue, parce que la meilleure façon de survivre, c'est par la langue. Et les meilleurs illustrateurs de l'arabe classique dans ces siècles du Moyen-Âge, ce sont, au moins dans les premiers rangs, les Iraniens. On en a cité, Hamadan, Ibn al-Mukhafa, pour le Kalila et Dimna, etc. Donc, il y a véritablement... une joute. Mais il faut comprendre, en ce moment-là, au moins, disons, après l'an 1000, puisque le tournant, c'est l'installation de l'amir el-Umara, ce que j'appelle le maire du palais iranien à côté du calife, à partir des Kalafides, des Abbassides, puis les Turcs.
En gros, on est à la fin du 10e siècle, voilà. Mais ça commence vers 945.
Voilà. Ça commence vers... Vous êtes plus savant que moi.
Non, je ne veux absolument pas.
Non, mais les dates, moi, ça... Et puis, il y aura les Turcs qui, eux, imposeront le sultan à côté du calife, tout en laissant le calife quand même. Bon. Donc, il est bien... On peut comprendre que ces nouveaux peuples qui interviennent dans l'histoire de l'islam tiennent à leur passé. Et ils sont très habiles parce qu'ils jouent le jeu. D'un côté, pour tout ce qui est, je dirais, officiel, qui ressortit à la littérature universelle, ils jouent le jeu de l'arabe. Et de l'autre côté, chez eux, ils jouent le rôle de la nation, nous dirions aujourd'hui du nationalisme, d'où le livre des rois de Firdausi, qui est un monument, je ne sais combien de milliers de vers ça comporte.
60 000 vers, dit-on.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut toujours tenir compte de ça. Mais pour revenir à l'histoire à la langue arabe elle-même, elle continue cette aventure.
Nous la verrons plus tard. Merci infiniment. Merci, professeur. C'était Question d'islam. J'ai reçu aujourd'hui le professeur André Miquel pour parler des séances de Hamadani et de Hariri, ce genre littéraire qui a prévalu dans l'Empire islamique. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Cédric Châtelut et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.